Il est 8h.
On parle de plusieurs centaines de millions de messages des individus qui parlaient extrêmement librement de leur trafic. Et ça va permettre aux enquêteurs, petit à petit, de remonter le fil.
Une messagerie entre trafiquants a été déchiffrée par la police, de quoi alimenter d'innombrables enquêtes criminelles dans le monde. Notre dossier dans quelques secondes. Faut-il acheter des autotests en pharmacie? Ils commencent à être vendus aujourd'hui. Le médecin d'Europe 1, Jimmy Mohamed, en direct dans ce journal. Et puis Donald Trump serait-il en train de préparer l'avenir? L'ex-président américain courtise les donateurs du Parti républicain et insulte certains leaders de son camp. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. La démocratie va-t-elle être enfin déconfinée? Les oppositions appellent au maintien des élections régionales. Le gouvernement est accusé de tergiverser. Notre invité porte ce dossier. Marlène Schiappa, ministre en charge de la citoyenneté. Rendez-vous à 8h15.
On vous retrouve juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Les enquêteurs vont avoir de la lecture, mais ça ne sera pas de la littérature. Une somme faramineuse de messages entre criminels, trafiquants et malfaiteurs de toutes sortes. Il y a quelques semaines encore, tout était chiffré. Aujourd'hui, ces échanges sur le réseau Sky ECC sont aux mains de la police et bien lisibles, notamment grâce à la France.
Bonjour Guillaume Bier.
Bonjour.
Chef du service police-justice de la rédaction d'Europe 1. Quand on parle communication cryptée ou chiffrée, ça veut dire quoi? On utilise des téléphones spéciaux?
Non, ça pouvait fonctionner sur n'importe quel smartphone. En résumé, c'est un système qui s'ajoutait au fonctionnement de votre téléphone et qui chiffrait tous les échanges, de sorte qu'aucune écoute, aucun traçage ne soit possible. Ça rendait invisibles vos communications pour n'importe quel service d'enquête. C'était vendu sous le manteau ou sur le Darknet. Tarif 2 000 euros la ligne tous les 6 mois, mais pour des gros trafiquants, c'est une broutille. Le prix de la tranquillité. On estime que Sky ECC comptait plus de 170 000 utilisateurs dans le monde qui croyaient donc échanger en toute impunité.
Bon, 2 000 euros, le prix de la tranquillité, nous dites-vous. Justement, on dit que ce système était réputé inviolable. Comment les policiers ont pu le craquer?
Eh bien, il a fallu les efforts de 3 pays pour faire tomber le système. La Belgique et les Pays-Bas, où il y avait beaucoup d'utilisateurs, et la France, qui a joué un rôle très important parce que tout ce système de cryptage mondial était notamment hébergé sur des serveurs en France. Et donc voilà comment, dans le cadre d'une enquête judiciaire menée par les magistrats spécialisés du parquet de Paris avec Europol et Eurojust, eh bien la police judiciaire a pu mettre la main sur ces serveurs et en récupérer l'intégralité du contenu. Et alors là, jackpot.
Alors carrément, vous dites jackpot, c'est à ce point-là?
Tous les interlocuteurs que j'ai eus m'ont dit la même chose. C'est une mine d'or pour la police et la justice. Et c'est aussi ce que confirme Benjamin Iseli, secrétaire national du syndicat Synergie Officier.
C'est absolument énorme en termes de quantité de données. On parle de plusieurs centaines de millions de messages. Ce sont des individus qui ne prêtaient plus attention à ce qu'ils disaient et qui parlaient extrêmement librement de leur trafic. Et ça va permettre aux enquêteurs, petit à petit, de remonter le fil. Ça va nécessiter des années. Ça va nécessiter un travail en profondeur extrêmement important. Ça va nécessiter beaucoup de ressources pour que tout cela puisse aboutir à des interpellations et que des individus soient présentés à la justice.
Vous avez bien entendu, des centaines de millions de messages à exploiter pour les policiers, de quoi alimenter un nombre incalculable d'enquêtes dans le monde entier. Rien qu'en France, on comptait environ 2000 utilisateurs de Sky ECC. Mais attention, on est là dans le haut du spectre de la criminalité organisée. Ça concerne des dossiers très sensibles avec de gros enjeux. C'est pour ça que personne ne souhaite en parler officiellement pour ne pas nuire à ces enquêtes.
Absolument incroyable. Alors on entend cette discrétion en France. En revanche, nos amis belges affichent des retombées spectaculaires.
Oui, je vous donne rien qu'un exemple. Le port d'Anvers, l'un des principaux points d'entrée de la drogue en Europe, grâce aux informations découvertes dans les serveurs de Sky ECC, en 42 jours seulement, plus de 27 tonnes de cocaïne ont été saisies. 27 tonnes, c'est colossal, c'est presque la moitié du bilan total de l'an dernier. En fait, en quelques mois, ce sont les deux principaux systèmes cryptés des criminels qui sont tombés. Avant Sky ECC, il y avait eu EncroChat, même principe. Et là encore, la France avait joué un rôle central. Ce sont les gendarmes qui l'avaient débloqué l'an dernier. Et depuis, ça continue à aider à résoudre des enquêtes partout en Europe.
Spectaculaire, effectivement. Dossier signé du chef du service police-justice d'Europe 1, Guillaume Bier. Merci Guillaume, il est 8h05. Sur Europe 1.
Et l'information de la nuit nous vient d'Haïti. On en parlait dans le journal de 7h. 7 religieux catholiques, dont 2 Français, enlevés hier près de la capitale Port-au-Prince. Ils se rendaient à la cérémonie d'installation d'un nouveau curé. La police soupçonne un gang armé actif dans la région. Les ravisseurs réclament 1 million de dollars de rançon, selon le porte-parole des évêques haïtiens. Les premiers autotests de dépistage du Covid sont vendus à partir d'aujourd'hui dans les pharmacies françaises, même si les stocks ne vont arriver que progressivement. Et pour être sûr de savoir de quoi nous parlons, eh bien nous avons des cobayes dans ce studio, n'est-ce pas Mathieu ?
Oui, et Victor Delande, notamment, qui a fait comme moi son test au moment du journal de 7h30. Victor, rassurez-nous.
Ouais. Une barre, c'est effectivement négatif pour vous, Mathieu, et pour moi. Alors, il y a quand même une petite marge d'erreur. Hein. Ces autotests sont moins fiables que les tests PCR, mais ils sont très utiles. Je rappelle, une barre, le résultat est négatif. C'est donc le cas pour vous et pour moi. En revanche, c'est important à retenir. Si deux barres apparaissent, ce qui veut dire que vous êtes positif, vous commencez tout de suite à vous isoler et surtout, vous confirmez le résultat par un test PCR en laboratoire.
Ce qui permet aussi de cribler pour savoir de quel variant il s'agit, etc. Alors Victor, tant mieux pour vous et pour nous aussi au passage. Rappelez-nous juste où est-ce qu'on trouve ces autotests et combien ça coûte.
Alors comme le décret autorisant les pharmacies à s'en procurer n'a été publié que hier au journal officiel, un quart des officines a réussi à s'en procurer. Environ 6000 pharmacies en ont dès ce matin. Il va falloir encore attendre quelques jours avant qu'elles s'approviennent toutes. Et quant au prix, il sera encadré. Prix maximal 6€ jusqu'au 15 mai, puis au-delà, ça ne dépassera pas 5,20€ l'unité.
Merci Victor Delande. Et Jimmy Mohamed est avec nous. Bonjour docteur.
Bonjour François, bonjour à tous.
L'éclairage du médecin d'Europe 1, plusieurs questions concrètes pour vous, essentielles aussi. L'efficacité, la fiabilité de ces tests.
Alors il faut bien comprendre que c'est un test qui va nous permettre d'avoir une nouvelle stratégie, non pas de diagnostic mais de dépistage. On peut imaginer non pas annuler les gestes barrières mais renforcer le protocole sanitaire dans des lieux stratégiques, dans des entreprises, dans des écoles ou pourquoi pas à la réouverture des lieux de culture comme les musées, les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle. Bref, toujours est-il que vous ne ferez pas du diagnostic avec, mais on pourra faire des tests régulièrement. Et c'est ça l'intérêt. Se tester de plus en plus pour rétrécir les mailles du filet et enfin finir avec ce virus. Rappelez-vous, petit bémol, que lorsque nous avions eu les tests antigéniques, on pensait pouvoir contrôler mieux l'épidémie. Malgré tout, on a eu une troisième vague. Ça veut donc dire qu'on ne peut pas tout miser sur ces tests.
Alors Jimmy, on fait le test soi-même. Comment est-ce qu'on est sûr d'avoir le bon geste ?
Alors, c'est pas très compliqué, honnêtement. Le but du jeu, c'est de choper des sécrétions nasales, des crottes de nez en clair. Hein. Donc vous mettez le coton-tige pas trop profondément, mais il faut quand même rentrer un petit peu dans le nez, faire bien les deux narines et surtout respecter le temps de lecture. Ce qui peut être embêtant, c'est de lire un test trop rapidement ou trop tardivement. Lisez la notice, c'est assez simple et je pense honnêtement que c'est à la portée de tous.
Vous dites pas trop profondément, etc. Pour être précis, 2 cm, 3 cm.
Vous rentrez, vous savez, vous avez un petit coton-tige avec le petit bout en tissu, là, en coton. Eh bien, vous rentrez toute l'intégralité,
tout le coton,
mais pas plus. Et vous allez bien verticalement, alors que dans les tests antigéniques, on va horizontalement, on va dans les fosses nasales. Là, le but, c'est d'aller un petit peu haut. Normalement, ça doit vous chatouiller sans aucune douleur.
Merci Jim. Vous disiez, c'est une nouvelle stratégie, plus de tests. On en est aujourd'hui à 4 millions par semaine, hein. Les autres tests, les PCR et les antigéniques dans les pharmacies, c'est ça.
Ce qui reste la référence. Et Victor l'a bien dit, lorsque vous avez un test ou que vous avez un doute, il faut le confirmer avec un test antigénique ou encore mieux avec un test PCR qui est vraiment la référence.
Merci Jimmy Mohamed et vous restez en salle d'attente, le docteur Jimmy Mohamed. Vous repassez à 8h35 pour votre chronique Notre Santé. Aujourd'hui, on va aider les plus confinés d'entre nous à rompre la solitude.
L'autre nouveauté du jour sur le plan sanitaire, c'est la vaccination. Désormais ouverte à tous les plus de 55 ans et ce avec le vaccin AstraZeneca. Ce sera le cas d'ici quelques jours aussi avec celui du laboratoire Johnson & Johnson. L'actualité politique avec cette question lancinante. Les élections régionales et départementales auront-elles lieu aux dates prévues mi-juin ? Emmanuel Macron interroge tous les maires de France qui organisent le scrutin dans leur commune. Ils sont censés répondre au préfet d'ici ce soir. En tout cas, en attendant les élections, certaines décisions sont bloquées.
Par exemple, l'augmentation du salaire des aides à domicile. Le gouvernement a promis une hausse de 13 à 15%. Mais, Jean-Rémy Baudeau, les départements qui financent ces emplois font de la résistance.
Oui, et pourtant, on parle de 2 à 300 euros par mois pour des centaines de milliers de professionnels à domicile, infirmières, aides-soignantes, dont les revenus n'ont pas bougé depuis 20 ans. Sauf que cette promesse de hausse de salaire, c'est l'État qui l'a faite. Ça n'est pas sa compétence, mais avec le soutien des partenaires sociaux, l'exécutif a fait voter dans le budget 2021 une rallonge de 200 millions d'euros par année pleine. Le problème, c'est que, en théorie, ces emplois sont financés par les départements. Ils savent que c'est une demande des familles et des électeurs, mais ils rechignent à se faire tordre le bras, décrypte l'entourage de Brigitte Bourguignon, la ministre chargée de l'autonomie. On nous demande encore plus d'argent, mais on finance déjà le RSA qui explose avec la crise, répond un président de département, avant d'ajouter « On ne ferme pas la porte, mais reparlons-en après les élections ». Et voilà ce qui bloque des départements, pas pressés d'entériner des aides décidées par le gouvernement. Alors même que la stratégie de l'Élysée est de tenter de faire reconnaître les avancées sociales du quinquennat, la fameuse jambe gauche de la Macronie en plus du régalien et de l'économie. Sur le social, Emmanuel Macron est inaudible, reconnaît un conseiller. C'est pourtant l'une des clés de sa possible réélection en 2022.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant. Donald Trump qui tente un rapprochement avec les grands donateurs du Parti Républicain. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 8h11, la suite du journal. François Geffrier.
Il n'est pas parti si loin que ça, Donald Trump. Et pour preuve que la Floride n'est pas qu'une résidence de vacances, l'ancien président des États-Unis se montre très actif. Il a participé à une réunion du Parti Républicain.
Alexis Guilleux, vous êtes en ligne de New York pour Europe 1. Bonjour Alexis.
Bonjour.
Donald Trump s'est montré très critique vis-à-vis de certaines figures de son camp.
Oui, très déçu de Mike Pence, son ancien vice-président, et d'après plusieurs invités, Donald Trump a même tenu des propos vulgaires et insultants à l'égard de Mitch McConnell, le chef de l'opposition républicaine au Sénat. Un vrai leader n'aurait jamais accepté les résultats des élections. Bientôt 3 mois après son départ de la Maison-Blanche, l'ancien président n'a toujours pas digéré sa défaite. Scrutin truqué, fraude, Donald Trump assure avoir gagné des États comme la Géorgie et la Pennsylvanie, pourtant remportés par Joe Biden. Alors plusieurs centaines de donateurs, parmi les plus fortunés du Parti républicain, ont fait le déplacement ce week-end à Palm Beach, en Floride. C'est là que Donald Trump reçoit et consulte depuis plusieurs semaines, une manière de montrer qu'il garde toujours la main sur le Parti républicain malgré les divisions. Même si en 4 ans, la formation conservatrice a perdu le contrôle de la Maison-Blanche, du Sénat et de la Chambre des représentants, Donald Trump, lui, reste optimiste. Il prédit une victoire républicaine aux élections de mi-mandat, l'an prochain et à la présidentielle de 2024, sans mentionner ses projets personnels pour les années à venir.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 à New York.
Une déclaration frappante venue également des États-Unis. Le président de la Banque centrale américaine, la Fed, Jerome Powell. Voici ce qu'il nous dit. Il est plus inquiet d'une cyberattaque à grande échelle que d'une crise financière du type de celle de 2008. Il donne des scénarios où les institutions financières mondiales perdraient toute trace des paiements que vous faites. C'est pas extrêmement rassurant.
Un événement dans le monde du golf. Un Japonais, pour la première fois, remporte le Master d'Augusta.
Matsuyama is Japan's first Masters champion.
Hideki Matsuyama, grande première qui lui ouvre les portes de l'histoire selon la presse japonaise. Il est félicité par le premier ministre de son pays. La bourse de Tokyo, plusieurs entreprises liées au golf ont bondi de 15 à 16% après cette victoire.
Merci beaucoup François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1. 8h14, dans quelques toutes petites secondes, nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité ce matin, la ministre déléguée en charge de la citoyenneté, Marlène Schiappa. À tout de suite.